Il est 20h sur Radio Campus.
Place de la Toile, le magazine hebdomadaire des...
Ça, j'y joue beaucoup.
Hashtag.
Déclic, le nouveau magazine des nouvelles écritures. Sur Radio Campus Paris.
Bonsoir et bienvenue pour ce troisième numéro de Déclic, le rendez-vous mensuel de Radio Campus Paris où on vous fait découvrir des projets expérimentaux à la frontière du cinéma, des jeux vidéo, encore du documentaire. Le mois dernier, nous recevions Simon Bouisson qui nous présentait son film interactif Way or Die sur l'enfer des week-ends d'intégration étudiants. Émission toujours accessible en podcast sur la page de l'émission Déclic sur le site radiocampusparis.org. Et ce soir, nous vous proposons de découvrir un dispositif transmédia documentaire autour des arts divinatoires. Restez avec nous, sorcières et monstres à deux têtes viendront nous rejoindre en cours d'émission. Pour ce faire, nous aurons comme chaque mois le crash test de Christine Siméon, journaliste sur France Inter. Nous aurons également le pas de côté de Marine de Saint-Seine, journaliste indépendante, et de Rémi Reboulet, producteur chez Bridges. Et enfin, le fil d'Oriane, présenté par Oriane Hurard, programmatrice du festival Tous Écrans de Genève et co-organisatrice de l'événement I Love Transmédia. Relaxez-vous, libérez votre esprit et préparez-vous à entendre parler de magie. Déclic épisode 3, c'est parti.
Déclic, le magazine des nouvelles écritures.
Le transmédia ou transmédia storytelling est une nouvelle forme de narration qui
se caractérise par l'utilisation combinée de plusieurs médias
pour développer un univers, une franchise, un regard nouveau et complémentaire.
Il s'agit de points d'entrée multiples et optionnels dans l'histoire.
TV, internet, mobile, radio, édition, tablette, événement, jeux vidéo, mobile, radio, etc.
Peuvent être explorés et compris indépendamment les uns des autres, etc.
Donc pour ce troisième numéro de Déclic, nous recevons Camille Ducellier, plasticienne et réalisatrice, qui vient donc nous présenter son projet Reboot Me, qui est en ligne depuis le 10 décembre à l'adresse www.rebootme.fr. Bonjour Camille.
Bonjour à vous.
Alors Reboot Me, c'est donc une expérience interactive. On va rentrer dans les détails un peu plus tard dans l'émission, notamment avec le crash test de Christine Siméon, qu'on attend toujours avec beaucoup d'impatience. Mais c'est également un dispositif transmédia extrêmement large, avec un documentaire sonore qui a été diffusé sur France Culture, une série de 6 documentaires sur des apprentis sorciers et sorcières, un jeu de cartes qui sera relié à une application smartphone. Est-ce que j'ai fait le tour des plateformes ou j'en ai oublié ?
Non, c'est déjà pas mal.
D'accord. Et alors, qu'est-ce que c'est le thème en fait qui relie toutes ces différentes plateformes ? Quel est l'univers narratif du projet Reboot Me ?
Alors l'univers effectivement de Reboot Me, c'est quand même de découvrir la figure politique de la sorcière sous plusieurs angles. Et ça fait déjà quelques années que je m'intéresse à ce sujet. En 2010, j'ai fait un documentaire qui rassemble 5 portraits de femmes qui s'autoproclament sorcières aujourd'hui. Donc qu'est-ce que c'est que sorcière aujourd'hui ? Ce sont des individus qui s'écartent d'une manière ou d'une autre des normes établies. Donc ça peut être... par rapport à des pratiques spirituelles, par rapport à des propos et des points de vue plus politiques ou des démarches personnelles en lien avec leur corps. Donc être sorcière ou devenir sorcière, ça peut être une démarche d'individu, de garçon ou de femme ou d'individu transgenre. C'est pas uniquement réservé aux femmes. C'est pour ça qu'apprenti sorcière, la série, c'est justement apprenti i.e, c'est-à-dire
oui,
masculin
féminin.
Oui,
un jeu sur le genre, ouais. Donc c'est une manière de réactualiser la figure de la sorcière et une manière peut-être aussi de la réhabiliter ou c'est...
Oui, c'est une manière de l'invoquer autrement, de voir quel peut être son potentiel subversif et de lui trouver encore un écho aujourd'hui puisque il y a encore beaucoup d'individus qui sont fort discrédités et qui subissent, on pourrait dire, ce qu'on subit dans l'histoire les sorcières.
Et alors toi, quand est-ce que tu as rencontré ta première sorcière ou la première personne en tout cas qui t'a amené à t'intéresser à ce milieu-là, qui est un milieu qui par définition n'est pas extrêmement visible et qu'on connaît très très mal?
Alors moi j'ai commencé à m'intéresser à ça, pas parce que je connaissais déjà des personnes sorcières, mais parce que je me sentais moi-même un peu sorcière, dans le sens où j'étais toujours en marge par rapport aux sphères dans lesquelles je naviguais. C'est-à-dire que donc, je m'intéressais déjà beaucoup aux pratiques féministes, et quand j'arrivais dans des sphères féministes, je voulais parler par exemple de voyage astro ou d'art divinatoire, ben, j'arrivais un peu en marge parce que ce n'était pas des thématiques très déployées dans ces secteurs plus politiques ou libertaires. Et quand j'étais dans des stages plus de méditation ou de pratiques spirituelles et que je voulais y mettre une charge politique, ça ne sonnait pas non plus très bien. Donc en fait, j'étais un peu coincée dans cet entre-deux, et c'est justement cet entre-deux qui m'a fait ce déclic de me dire mais peut-être que je suis en marge de groupes en marge. Et puis il y a une revue qui s'appelle Sorcières, et le sous-titre, c'est important, c'est Elles vivent. Et c'est une revue des années 70 qui justement donnait la place à des poétesses, à des écrivains, à des femmes qui se disent sorcières et féministes.
D'accord. Donc, ce dont on s'aperçoit, en fait, quand on voit les différentes briques du dispositif transmédia, c'est qu'effectivement, la réalité de la sorcellerie est beaucoup plus diverse et beaucoup plus complexe qu'on ne peut le penser quand on a toutes les images un peu d'Épinal, de la sorcière avec le nez crochu et la marmite. Et il y a notamment, la frontière est beaucoup moins claire entre ce que sont les expériences d'autres états de conscience et ce qu'est la sorcellerie. Alors, pour permettre à nos auditeurs un peu de se plonger dans cet univers-là, je vous propose d'écouter un extrait du Guide du Voyageur Astral, qui est donc l'émission radiophonique qui a été diffusée sur France Culture, où une personne raconte sa première expérience de sortie de corps.
Première expérience donc de conscience ou d'état modifié de conscience, parce qu'il s'agit de cela, c'était à l'adolescence. Donc j'étais en état de veille totale, j'étais au lycée, en conversation le temps d'une récréation avec des amis, et bah, soudain j'ai vu la scène de très très haut, et je nous ai vus en train de parler. Alors pour les voix c'était vraiment beau, des choses comme ça. Par contre je voyais très très bien, et je sentais tout, c'est-à-dire je sentais les états des personnes qui étaient avec moi, le mien... difficilement, parce que c'est monté très vite. La sensation que j'avais, alors c'est une traduction physique que j'ai, qui n'est pas la réalité, qui s'est montée à toute barzingue, quoi, voilà, toute vitesse, plus vite que la lumière. Et j'ai eu très très peur, parce que je me suis dit que jamais je pourrais revenir. Une fois que j'ai eu peur, en fait, ça a stoppé. J'ai mis tous mes efforts, on va dire, d'énergie pour stopper le mouvement, notamment j'en avais peur. Et puis je me suis rendu compte que ben, si je regardais un peu plus... Non seulement je voyais la cour, certes, mais je voyais tout le lycée, et je voyais en fait jusqu'à la mer, qui est à 30 bornes, c'était à Arles à l'époque, et donc je voyais Arles, je voyais distinguer tous les monuments, je voyais les Alpes, je voyais le ciel, et je me dis, mais en fait, ça va bien plus loin que ça. Donc c'est une réalité physique, certainement, mais autre.
Voilà, donc on vient d'écouter un extrait du Guide du Voyageur Astral, l'émission radiophonique réalisée dans le cadre donc, du dispositif transmédia autour de Reboot Me. Donc là, on vient d'entendre parler d'une expérience de sortie de corps. C'est un des thèmes qui est abordé donc, dans l'expérience. Comment est-ce que toi, tu as fait pour aller à la rencontre de ces différentes personnes? Combien de temps est-ce que tu as pris le travail d'enquête aussi autour du dispositif?
Ça fait déjà plusieurs années. En fait, quand on est dans une pratique documentaire, on rencontre plein de personnes, et puis parfois ça colle avec un projet, et puis parfois avec un autre. Donc là, le voyage astral, ça m'intéressait depuis déjà un certain temps, parce que je trouve que c'est quelque chose qui peut être pris sur plein de plans différents, que ce soit le plan spirituel, concret, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui relatent d'avoir eu des expériences de sortie de corps, notamment dans l'enfance et dans l'adolescence. Mais ça peut aussi être pris sur un plan plus poétique ou même philosophique, puisqu'il s'agit de déplacer son regard et de pouvoir, en sortant de son corps, observer notre propre corps et la Terre d'un autre point de vue. Et ça, c'est très intéressant quand on se met à vouloir réfléchir sur pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait sur Terre.
Et c'est des états dans lesquels on rentre de manière naturelle, ou parfois c'est avec des prises de substances parallèles, je ne sais pas?
Alors non, ce sont des expériences que nous pouvons vivre de manière totalement naturelle. Et d'ailleurs, il semblerait qu'il y ait un consensus international sur le fait que chaque nuit, nous avons des petites sorties de corps lorsque nous dormons à certains moments de notre sommeil, de la même manière qu'on émet l'hypothèse que nous rêvons chaque nuit. On n'a pas vérifié, mais on rêve a priori tous chaque nuit. Et bien aussi, on fait des sorties de corps chaque nuit. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui doit être stimulé par une drogue externe. C'est une capacité que nous avons. C'est juste que nous ne la connaissons pas, et il nous faut la développer comme une gymnastique C'est une souplesse qu'on doit acquérir, de voir les choses autrement et d'essayer de projeter sa conscience en dehors du corps.
Donc toi, c'est une pratique que tu as déjà pu avoir ou c'est juste quelque chose que tu observes de l'extérieur, fascinée, curieuse?
À chaque fois que je m'intéresse à un sujet, j'essaye, pour essayer de ne pas tomber justement dans le charlatanisme ou dans des choses qui ne sont pas très justes, d'auto-expérimenter les choses. Donc à chaque fois, par exemple là, le voyage astral, bah, j'ai fait des stages pour apprendre à sortir de mon corps. Donc c'est effectivement assez drôle de le dire comme ça, mais c'est très intéressant sur ce que ça nous apprend de notre rapport à notre énergie, à notre corps. Donc voilà, donc je suis, on va dire, une bébé voyageuse astrale, entre autres.
Et donc du coup, en quoi est-ce que le documentaire sonore se distingue des autres supports que tu as dans le dispositif transmédia? Pourquoi est-ce que, qu'est-ce que le documentaire sonore peut apporter que la vidéo interactive n'apporte pas?
Par rapport à un sujet comme ça qui est fort connoté, c'est-à-dire que le voyage astral, ça induit tout de suite des images ou des surtout dans le registre spirituel, ça peut vite fermer les gens.
Oui, qu'on voit d'ailleurs dans sur la plateforme interactive des images de sortie de corps. Enfin,
voilà, oui. Et du coup, c'est vrai que l'environnement sonore, il permet à l'imaginaire de sortir un peu des images enfermantes par rapport à ces sujets-là et de se laisser aussi porter sur d'autres plans. Et je trouve que ça, c'est la force du documentaire sonore. C'est d'accepter, en fait, de faire le voyage sans être dans la croyance. Ça, c'est très important. C'est que moi, je ne me situe pas du côté de la croyance. Je m'en fous de savoir si c'est vrai ou pas. Est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas? Est-ce que les elfes existent ou est-ce qu'ils n'existent pas? Ou est-ce que les monstres à deux têtes existent ou pas? En fait, je m'en fous. À partir du moment où ça me fait sourire et ça me déclenche une réflexion et ça me permet de voir les choses autrement, je m'y investis.
D'accord. Donc quelque part l'absence d'image permet de ne pas rester en surface et peut-être permet aux gens de rentrer un peu plus en profondeur dans le sujet. Donc du coup j'imagine que tu as différents types de rapports avec toutes les personnes que tu as pu rencontrer pour le documentaire. Certains sont peut-être des amis, certains pas du tout.
Effectivement ça peut être des personnes que je côtoie depuis un certain temps et puis d'autres je vais vraiment à leur rencontre. Ouais, c'est vraiment comme une enquête... Ça dépend vraiment des liens concrets et après de l'équilibre aussi entre ces personnages-là pour faire Reboot Me. Là, effectivement, il y a quatre oracles, donc quatre personnages. Un homme Wiccan, donc qui pratique la philosophie Wicca. Un monstre à deux têtes, donc ce sont deux individus qui forment un couple transgenre. Un chercheur de la conscience, donc qui s'intéresse au voyage astral. Et une femme clairvoyante, intuitive. Donc voilà, ce sont des individus très différents, mais qui parlent tous du corps et des mondes invisibles.
D'accord. Alors bah justement, puisque tu viens d'en parler, on va se pencher maintenant un peu plus concrètement sur l'expérience interactive, qui est donc la plateforme qui est sortie le 10 décembre sur www.rebootme.fr, REBOOTME. Et donc on va écouter le trailer qui permet d'avoir une idée à la fois de l'ambiance et de l'expérience proposée sur le site internet. Donc.
Peu importe le chemin qui vous a mené jusqu'ici, cette page ne s'ouvre qu'en cas de redémarrage forcé et vous y êtes. N'ayez crainte. J'ai choisi pour vous des sorcières bienveillantes qui seront vos oracles au cours de cette expérience.
Voilà, donc on vient d'écouter le début du trailer de Reboot Me qui présente l'expérience interactive. Mais pour comprendre les détails de ce qui est proposé vraiment cette plateforme, je vous propose de passer tout de suite au crash test de Christine Siméone.
Qu'importe ce que le futur nous réserve, le futur choisit
Déclic.
Alors Christine, vous allez nous raconter ce soir ce qui se passe en fait quand on se fait prédire son avenir par une intelligence artificielle.
Camille, regarde-moi bien. Alors comme ça, tu te sens un peu sorcière, c'est ça? Un peu voyante, non? En général, quand on va voir une voyante, c'est pour savoir si on aura un nouvel amoureux le mois prochain, si on va trouver un job bien payé et relax, ou en tout cas pour s'entendre parler de soi. Quand on consulte une voyante en ligne, en général, tu tires 2-3 cartes et au bout d'un moment, assez court d'ailleurs, la voyante virtuelle te dit « Ouh là là, vite, appelle-moi, j'ai un truc super important à te dire, il va se passer un événement majeur dans ta vie, vite, vite, téléphone-moi, oh machin truc, oui, c'est cela, merci ». J'ai donc testé Reboot Me, c'est gratuit, tu penses? En pensant qu'on allait me faire un lavage de cerveau, Reboot Me, ou soigner mes rhumatismes, rebooteux peut-être le système. J'ai fait connaissance donc avec Kira et Gaël, monstre à deux têtes, comme tu dis Camille, c'est pas très gentil. Rodrigo, chercheur de la conscience, qu'est-ce que c'est que ça? Laurence, intuitive, et Guy, adepte de la Wicca. Alors je pose une question à cette madame Irma virtuelle et digitale et elle me répond avec des vidéos. Le couple queer donc, le conscienciologue, je n'arriverai jamais à prononcer un truc pareil, la dame sympa et l'adepte Wicca qui me parle avec des feuilles sur le visage. Ma question donc, suis-je devin ? Hein, c'est une bonne question ça Camille, qu'est-ce que t'en penses ? C'est un système très simple, Reboot Me. En 10 minutes tu tires tes 5 cartes, tu regardes tes 5 vidéos et là... je ne vois pas le rapport. Tu apprends que tes nouveaux amis queer refont le monde à longueur de temps. Ils te disent qu'ils travaillent, mais à quoi exactement? Ils sont féministes, mais avec du poil partout, c'est pas si fréquent d'être féministe et velu comme ça. L'oracle feu est une vraie bouffée d'apaisement pour moi, en tout cas. À chaque fois, elle se balade dans la rue, elle te parle de synchronicité. Monsieur le conscienciologue t'explique que tu y vois vraiment à 360 degrés avec tes deux yeux. Juste, t'as pas 2 minutes dans ta vie pour t'en rendre compte. Les cartes m'ont guidée vers ce dont je manque, les ressources dont je dispose, ce qu'il me faut dépasser. Dans mon cas, c'est l'excès et la dramatisation.
Ah, voilà.
J'ai posé
Drama
des questions.
Queen.
J'ai donc posé des questions. Suis-je devin, donc ? Et mon résultat, ma synthèse, enfin c'était écrit un peu petit Camille, hein, mais enfin je suis arrivée à lire quand même. Vous vous sentez profondément végétal ces dernières semaines. En revanche, j'ai la sensation, me dit Sérig, hein, c'est le nom de l'intelligence artificielle, que vous arrivez au bout d'une longue psychanalyse ou d'un travail spirituel et c'est une victoire financière notable. Je confirme, Camille, même dans la vraie vie, arrêter une psychanalyse, ça donne un peu de l'air dans les finances. J'ai aussi posé une autre question parce que j'ai fait plusieurs tests.
Bien sûr, c'est gratuit. Ouais.
Serais-je bientôt promu ? Question qui se pose à des voyantes quand même normalement. Réponse de la machine. Je ne sais absolument pas quoi répondre et je n'ai aucune idée de comment vous aider. Vraiment, merci, merci beaucoup. La prochaine fois, je demanderai aux algorithmes de Google.
Merci Christine pour ce crash test qui nous permet de mettre un peu du point de vue de l'utilisateur quand on va faire l'expérience sur www.rebootme.fr. Camille, une réaction ?
Oui, alors il y aurait beaucoup à dire,
oui, y a beaucoup de choses,
de la manière dont tu t'empares de l'expérience. Mais peut-être juste deux choses. Effectivement, la Madame Irma de Reboot Me s'appelle Sérig. Mmh. Et ce n'est pas anodin puisque Delphine Sérig est une de mes actrices préférées et que c'est aussi une féministe. Qui a elle-même fait des documentaires, donc c'est un hommage que je lui rends
à travers. Sois belle et tais-toi.
Absolument. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'intelligence artificielle qui, effectivement, répond à votre question. Une autre chose, tu dis Kira Hegel, le monstre à deux têtes, c'est pas très gentil. Et ça me permet de répondre à une autre question auquel j'ai peut-être pas été très claire. C'est qu'effectivement, l'utilisation de sorcière, qui à la base est un terme négatif, qui vient là pour être une insulte, réutiliser ici comme une fierté. Donc devenir sorcière ou utiliser un terme comme monstre à deux têtes est évidemment une manière d'être dans l'empowerment, c'est-à-dire de récupérer une capacité qu'on a en soi d'être plus proche, plus libre et plus proche de soi-même. Donc Kira Hegel se définit, c'est s'autoproclame, elle-même, monstre à deux têtes, de manière très fière. Donc ça, voilà, c'est pour parler un peu de ces personnages. Après, effectivement, ça peut être incongru de poser une question et d'avoir des réponses à travers des modules documentaires et des personnages aussi étonnants. Mais c'est justement, moi, mon intérêt, c'est de faire découvrir ces personnages qui sont assez peu visibilisés dans les univers médiatiques et télévisuels, entre autres, puisque ce sont des espaces assez normés. Et moi, j'essaye de partager avec l'univers des préoccupations plus minoritaires.
Je peux rajouter juste un petit test autour de moi. Beaucoup de plantages sur Mozilla. Alors, je ne sais pas pourquoi Cérig n'aime pas Mozilla en particulier.
Bah, Mozilla a tendance à poser en général plus de problèmes pour les expériences interactives et les formats vidéo en ligne que Chrome, hein, de toute façon.
Même si on aimerait bien que...
Bah oui, bah que... oui.
Qu'il en soit autrement.
On aimerait tous qu'il en soit autrement, bien sûr. Mais alors du coup, pour reprendre un petit peu le déroulé, donc quand on arrive sur la plateforme, on a 4 catégories parmi lesquelles on peut choisir de se questionner. Quelles sont les 4 catégories ?
Donc il y a amour, travail, projet, spiritualité.
D'accord. Donc une fois qu'on a choisi une de ces 4 catégories, on écrit sa question. Et à partir de là, on va se retrouver dans un espèce de chemin de fer avec 5 étapes que toi, tu as définies comme ton propre art divinatoire, c'est-à-dire ta propre manière de lire les cartes et de prédire l'avenir d'une certaine manière. Et donc, ces 5 étapes nous amènent à la fin vers la formulation d'une prédiction qui est donc énoncée par une intelligence artificielle.
Oui, et le résultat, donc la réponse, elle est à la fois énoncée par une intelligence artificielle, mais elle est aussi synthétisée par les 5 étapes qu'on voit à la fin rassemblées sur une seule interface et qu'on peut soi-même interpréter comme un tirage. En fait, la mécanique, elle est assez proche d'un jeu de cartes que je pourrais t'adresser comme ça, en étalant des cartes, et
comme
tu choisis
comme un jeu de
tarot, et tu peux tirer 5 cartes. Et donc là, tu vas tirer 5 cartes successives. Et à la fin, tu peux donc les observer, les comparer, les associer et faire ta propre interprétation.
D'accord.
C'est une sensation plus qu'une prédiction que Cérig délivre, en fait.
Oui,
hein.
Parce qu'en plus, elle, son ton est volontairement parfois décalé, un peu loufoque. Il y a aussi beaucoup d'humour dans cette proposition, parce que je trouve que c'est très important d'amener cette aération et cet humour dans des préoccupations ésotériques et ou politiques, qui sont souvent perçues comme ringards ou trop sérieux ou trop fermés ou trop sans décalage. Donc voilà.
Donc en fait, c'est une manière de. Il y a un second degré pour rappeler que c'est plus. On vient chercher dans ces espèces de. Pas de prédiction, on va dire de sensation, plus de la matière à réfléchir que vraiment des réponses à des questions qu'on adresserait finalement.
C'est ça, mais après l'humour n'est pas là non plus pour discréditer les arts divinatoires. C'est juste que l'humour permet d'élargir la vision qu'on a de ces pratiques-là. C'est D'accord. pas pour dire « ah 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 les arts divinatoires ». Non, c'est pour dire « il est possible de s'y intéresser et de les utiliser, mais avec une distance critique ». Voilà, pour réfléchir et aller plus loin.
D'accord. Alors, on reviendra un peu plus en détail après sur le statut de l'intelligence artificielle, de Cérig, qui est donc central dans le dispositif. Mais juste avant de rentrer dans les détails, on va faire une petite pause musicale avec une chanson du groupe Witchcraft, qui veut donc dire sorcellerie en suédois, ça me paraissait donc, enfin en anglais, pardon, c'est un groupe suédois. Ça me semblait approprié pour aujourd'hui. Et le morceau s'intitule également Witchcraft. Alors du coup, ça faisait encore plus de bonnes raisons
Double
de le mettre
sorcière.
Aujourd'hui. Exactement.
Witchcraft, take one. Try to get away.
what's in your heart is about to crumble now.